bien bonjour.
Voilà. Bonjour.
Donc aujourd'hui, on va faire peut-être une émission un petit peu courte à l'approche de Noël, parce que je n'ai pas d'invité cette fois-ci. J'avais invité Hélène Bonis des éditions Le Sablier, et puis finalement, elle m'a fait faux bon pour des bonnes raisons. Hein. Voilà, mais elle viendra prochainement. Alors j'ai un peu la voix cassée parce que je suis un peu enrhumé. On a eu le tort de faire une soupe aux livres à Bruxelles. Et donc, on a attrapé des microbes pour lesquels on n'a pas de défense. Donc, en plus, c'était en pleine crise. Il y avait des militaires pleins, les Russes. C'était assez étonnant. Voilà, ça me rappelait les années noires de la guerre d'Algérie, à Alger, quand j'étais enfant. Donc, des soldats à tous les coins de rue, des chars dans les rues, des rues un peu désertes avec des blocs de béton pour barrer les artères, des arbres coupés, enfin, des drôles de trucs. Et voilà. Mais on a fait quand même une soupe aux livres qui a été un vrai succès. C'était chez un particulier, parce que sinon, tout était interdit, les manifestations. On y était allé aussi pour voir une interprétation au théâtre L'Homme Semence par une troupe belge qui s'appelle la compagnie du Simorgue. Et voilà, donc ça avait été déplacé. Enfin, ils ont arrêté un certain nombre de manifestations du 21 novembre au 26 novembre. Et après, on a pu le voir. Voilà, c'était très beau. Et je trouve que ça allait bien dans le contexte. Voilà. Donc, j'ai un peu, comme on dit, la crève. Bon. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'invité, mais je voulais parler de différentes choses. Je voulais parler de Victor Hugo, d'abord, que j'ai redécouvert à Besançon, où il y a sa maison natale. Et je trouve qu'il a dit des choses qui sont tout à fait d'actualité dans le contexte. Là. Il y a deux petits bouts de phrases que j'ai notés et que je trouve intéressants. Donc il dit « Quel est le plus grand péril de la situation actuelle ?» Et il répond « l'ignorance encore plus que la misère ». Et donc, c'est extrait des Misérables. Et je crois que c'est tout à fait d'actualité. Beaucoup de choses vont mal du fait de l'ignorance de beaucoup de gens qui en souffrent souvent et qui n'ont parfois d'autres solutions que de se révolter et de faire des choses inconsidérées. Et donc, je crois que c'est important. Et puis, à partir du moment où on est ignorant, on peut être entraîné dans n'importe quelle croyance. Hein, il y a des gens toujours bien intentionnés pour vous faire croire à des choses. Alors que si on est capable de lire par soi-même, de se cultiver, de pouvoir acquérir des connaissances qui sont utiles éventuellement à du travail, mais aussi à faire, je dirais, à trier le bon grain de l'ivraie et pas se laisser entraîner par des gens qui ont des idées plutôt nocives. Voilà, donc il dit aussi, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. Voilà, c'est dans la préface des Misérables. Alors Victor Hugo, c'est quelqu'un qui s'est toujours engagé pour des combats pour la liberté, la démocratie, et en particulier le fait de pouvoir apprendre, quoi, de pouvoir lire, de pouvoir... Et il disait aussi qu'il faudrait qu'il y ait une bibliothèque partout, quoi, dans chaque ville, dans chaque rue, dans chaque entreprise, dans chaque usine, dans chaque maison, parce que c'est effectivement, je crois que c'est le plus gros rempart contre l'intolérance, contre la méconnaissance des autres, la peur des autres. Voilà, donc je voulais parler de Victor Hugo. Donc ça, c'est des livres aussi pour les fêtes, hein, puisque on se disait qu'on pouvait dire ben, quelle bonne lecture ou quel livre à offrir. Je pense que Les Misérables, ça reste quelque chose d'assez magnifique à offrir, même à des enfants hein, qui lisent. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, il y a de choix dans l'œuvre de Victor Hugo. Il y a d'ailleurs une très belle bande dessinée qui raconte sa vie. Mais je ne me rappelle pas le nom de la maison d'édition. Mais bon, on peut trouver ça, c'est pas difficile. Je vais parler d'un autre livre complètement dans un autre domaine, qui est un livre paru chez un éditeur qui fait des choses intéressantes, qui s'appelle Le mot et le reste, Le mot et le reste, et qui fait beaucoup de livres qui parlent de la musique, et souvent sur des groupes musicaux, sur des chanteurs, et on a la plupart du temps à la fois toute l'histoire d'un groupe, ça peut être Pink Floyd, ça peut être bien d'autres, et puis Là, il y a un livre qui, moi, m'a beaucoup intéressé parce que c'était quelque chose qui me tient à cœur. Un livre qui s'appelle Not Dark Yet, et avec mon accent anglais formidable, et qui parle des chansons de Bob Dylan. Donc, c'est un livre très gros dans lequel, bon, parce que Bob Dylan a fait quand même un vrai paquet de chansons. Et pour chaque chanson, on a la petite histoire, quoi. Comment cette chanson est née, qu'est-ce qu'il y a eu autour de cette chanson. Voilà, c'est le pourquoi, le comment de chacune de ces chansons, le contexte dans quel. Donc à chaque fois, on a c'est année après année, album après album, et pour chacune, on a un texte qui permet de réécouter les chansons ou celles qu'on a aimées de Bob Dylan avec un autre regard, en disant bah, tiens, je ne savais pas que cette chanson, justement. Que j'aimais beaucoup, elle parle vraiment de ça. Quand on n'est pas très fort en anglais, on ne comprend pas tout. Donc là, et puis le contexte, qu'est-ce qui s'est passé autour de ce texte, pour qui il a écrit, c'était telle fille dont il était amoureux, enfin, des choses comme ça, ou tel événement qu'il a voulu mettre en avant au travers d'une chanson. Voilà.
Alors, le titre et il est à la maison d'édition ?
Alors, la maison d'édition s'appelle Le mot et le reste. Et le titre, c'est Not Dark Yet, donc chanson de Bob Dylan. Et c'est écrit par un auteur qui s'appelle Nicolas Reynaud. Hein, Nicolas Reynaud, R-A-I-N-A-U-D. Voilà, Not Dark Yet, chanson de Bob Dylan. Donc, c'est un pavé. Hein, c'est, mm-hmm. Voilà. Mais ça peut être, justement, si on a...
Ça peut être intéressant à étudier, oui, même, oui, oui. Même pour les enseignants. En fait,
oui,
pour,
complètement.
Pour tout le monde.
Ouais. Vraiment, il y a quasiment toutes les chansons de Bob Dylan depuis les débuts. Ça permet aussi de comprendre son histoire, comment il en est venu. Il y a tout quoi, dedans. Il y a toute une, eh bien, bien sûr une introduction, mais ça va jusqu'à la période actuelle, parce que Bob Dylan chante toujours et compose toujours. Et voilà, jusqu'en 2015, on va jusqu'à Old Job, qui est les dernières choses qu'il a fait, jusqu'en 2015. Quoi, voilà. On écoute peut-être une chanson, on en profite.
Exactement.
Hein, on va se faire un petit Dylan.
Tout de suite, un petit Dylan.
Donc, effectivement, ben, pour prendre l'exemple de cette chanson, il y a des explications sur la façon dont la chanson est construite, et puis ce que ça veut dire. Donc, on a aussi une partie de la traduction. Donc, il dit « Je toque, toque, toque à la porte du paradis ». Et ça, c'est tout simple, en fait. Il y a quatre accords. Ils expliquent qu'il y a quatre accords. C'est une chanson vraiment simple, mais qui parle aussi d'une réalité. Il fait de plus en plus sombre, trop sombre pour voir. Voilà. Et puis, il explique aussi comment la chanson a été reprise, comment il s'en est servi dans différents concerts, etc. Hein, il dit « Knocking on Heaven's Door fait l'objet de tous les traitements, c'est souvent très plat, parfois réussi, émouvant. Warren Zevon qui mourra quelques semaines après son enregistrement, ou insolite, Anthony au piano. Tous en font trop, l'hommage de Guns N' Roses à Freddie Mercury devant la foule immense de Wembley vire au reggae. On oublie souvent que Knocking on Heaven's Door dure 2 minutes 30, que Dylan a eu l'intelligence de ne pas surexploiter ce classique instantané. Batterie légère, basse solide, cœur lointain, harmonium, cela suffit. » Voilà. Donc c'était...
Oui, donc il a créé cette chanson en quelle année?
Ben ça, c'est une chanson qui date... faut que je retrouve.
Ah, bon, c'est pas grave.
Oui. C'est en 73.
En 73.
Voilà. Au moment où il a fait aussi un disque qui s'appelle Pat Garrett and Billy the Kid... Voilà, il y a eu un film, enfin il y a eu beaucoup de choses avec tout ça. Donc voilà, un livre épais, mais qui nous interpelle aussi sur toute une vie d'un homme qui est là dans la chanson depuis un vieux paquet d'années et qui produit toujours, qui produit.
Et qui a fait de très belles chansons
et qui
reste un grand bonhomme de la chanson.
Et si on en écoutait une deuxième tout de suite?
Eh bien, avec plaisir. Voilà, donc on avait dit, je ne sais plus laquelle, Girl from the North Country. Ouais. Allez, c'est tout de suite.
If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine. See for me that her hair's hanging down. It curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging down. That's the way I remember her best.
If you go when the snowflakes fall, when the rivers freeze and summer ends, please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling.
If you're traveling in the North Country Fair,
where the winds hit heavy
on the borderline, please say hello to the one who lives there. For she was once a true love of mine. In the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline. Remember me to one who lives there. Boy, she once was a true love of mine.
True love of mine.
A true love of mine.
A true love of mine.
True love of mine.
A true love of mine. A true love of mine.
A true love of mine.
She was once a true love of mine.
Et voilà. Voilà, donc c'était Bob Dylan. Encore, bon, on va rester avec Bob Dylan parce qu'on ne va pas prendre la tête de tout le monde avec ça. Tout le monde n'aime pas Bob Dylan. Voilà. Donc, maintenant, je vais peut-être parler des nouvelles concernant les éditions Parole. Alors, d'abord, une nouvelle triste, donc la disparition d'une des auteurs des éditions Parole dans la collection Man-Femme, qui est donc Claire Fédéric, qui est décédée au mois de novembre. Et donc, on avait publié d'elle Le piano à écrire. C'était l'histoire, c'est presque une autobiographie, hein. C'est l'histoire d'une petite fille qui, jeune, découvre la musique. Un jour qu'elle est dans un jardin, elle entend une dame jouer du piano et elle rêve d'apprendre à jouer du piano et jouer du piano. Or, ben, ses parents sont des gens très modestes et puis ils font pas forcément très attention à son désir, et c'est après la guerre, et finalement donc elle n'apprendra pas à jouer au piano, mais elle deviendra écrivain, puisque comme elle dit, tout le monde peut obtenir du papier et un crayon, quoi, écrire, voilà. Et Claire Frédéric, elle a aussi fait une chose importante, elle a fait la biographie de Lazarine de Manosque, qui était un auteur poète occitan, qui était une femme qui était charcutière, si je me souviens bien, de métier, et qui a beaucoup aimé la poésie de Mistral et qui a correspondu pendant des années avec Frédéric Mistral en occitan et en écrivant des poèmes. Ils échangeaient beaucoup de lettres et de textes, comme ça, de poésie. Voilà. Donc Claire Frédéric, ben, nous a quittés. Hein, et donc si certains sont intéressés, donc le livre que l'on a publié, c'est Le piano à écrire, qui est une chose intéressante, parce que c'est vrai qu'il y a des vocations que l'on ne peut pas toujours réaliser, parce qu'il y a des métiers qui demandent un apprentissage et qui demandent une école, comme beaucoup de métiers, mais pour lesquels on n'a pas toujours les moyens ou les familles n'ont pas toujours les moyens. Donc aujourd'hui, ça change un peu, parce qu'on peut accéder plus facilement à l'apprentissage de la musique ou du sport ou de beaucoup de choses quand on a une vraie vocation. Mais il y a eu des époques où c'était pas aussi simple que ça, quoi. Voilà. Donc, on dit au revoir à Claire Frédéric et on la remercie pour tout ce qu'elle nous a offert comme connaissance. Voilà. Sinon, dans les nouveautés qui sont parues récemment aux éditions Parole, il y a Le prix de la liberté. Hein, c'est un livre dont on a parlé plusieurs fois parce que ça fait un moment qu'il était dans l'usine, dans le tuyau de fabrication. Hein, Le prix de la liberté de Pierre Souhaité, qui est un auteur qui habite tout près d'ici, puisqu'il habite à Malmoisson. Et donc Pierre a écrit un texte qui nous fait découvrir une période aussi méconnue de l'histoire de France, qui est la remise en esclavage des Noirs en 1802. Par Napoléon Ier. Donc, chose que beaucoup de gens ignorent, quand on leur dit quand est-ce que l'esclavage a été aboli en France, beaucoup disent 1848, mais c'était la deuxième fois. Puisqu'il y a une première abolition en 1794, au moment de la Révolution, et puis Napoléon Ier l'a rétabli en 1802, enfin, c'est une ignominie de la part de Napoléon, enfin bon, c'était un tyran, donc on ne pouvait pas attendre que des choses favorables de sa part. Et puis, donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, en 1802, il y avait une armée noire dans les îles comme la Guadeloupe ou Haïti. Une armée qui était une armée de gens qui avaient défendu la Révolution et la République parce qu'elle leur donnait leur liberté. Donc beaucoup de Noirs s'étaient engagés, avaient formé des armées et avaient, par exemple, mis dehors les Anglais ou les Espagnols qui étaient restés esclavagistes. Et en 1802, Napoléon débarque avec toute une armada pour remettre en esclavage les Noirs et en particulier les soldats qui formaient cette armée. Alors tous ne se laissent pas faire, il y en a beaucoup qui obéissent, c'était aussi la loi de l'armée, mais il y en a une grande partie qui prennent le maquis et qui vont combattre pour leur liberté et qui finiront par... Il y a un dernier carré autour du colonel Delgrès qui se fait sauter à la dynamite. Ils étaient plusieurs centaines d'hommes pour ne pas tomber entre les mains de l'armée qui voulait les remettre en esclavage et pour ne pas retourner comme esclaves. Voilà, donc c'est un épisode assez douloureux. Et le héros de ce roman, c'est parce que c'est un roman historique, le héros de ce roman historique est un jeune qui deviendra sous-officier, donc qui est savoyard, qui s'engage dans les armées de la Révolution, comme beaucoup l'ont fait pour défendre les idées de liberté. Il aura la chance d'être incorporé dans un régiment où il y a beaucoup de, justement, de Noirs et de Métis, ce qui fait qu'il les connaît bien, et des gens qui vont combattre sur le sol européen pour défendre la République jusqu'au moment où on va les utiliser pour aller remettre en esclavage les Noirs de l'autre côté. Voilà, donc c'est un livre militant aussi, hein, sur ce sujet-là. Pierre Souhaité est militant d'Amnesty International. Et voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre ce morceau de l'histoire, on découvre l'engagement de ces gens-là, leur crise de conscience par rapport à ce qu'on leur demande de faire, et puis il finira par désobéir, et puis on découvre aussi des régions qu'on connaît mal, comme la Guadeloupe, parce qu'on a aussi des descriptions, il fait de belles descriptions de la forêt, des fleurs, de toute la flore, et la faune, la mer, les poissons, etc. Voilà, il y a plein de choses qu'on apprend dans ce livre. Le prix de la liberté de Pierre Souhaité. Donc ça, c'est paru en décembre. En même temps, on a un des derniers livres dans la collection Main de Femme qui s'appelle Ma mère, qui est un livre d'une femme qui parle de sa mère, avec une relation qui ne s'est pas très bien passée, puisque... Le livre s'appelle « Ma mère, chronique d'un non-amour ». Hein, donc elle a eu une mère avec laquelle ça s'est plutôt mal passé. Et on découvre au fur et à mesure qu'on parle de ce livre que c'est des choses qui arrivent plus souvent qu'on le croit. On a toujours tendance à dire que la mère, c'est merveilleux. C'est toujours merveilleux. Mais quand on creuse, on a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes avec leur maman. En particulier, bon, les relations mère-fille ne sont pas toujours aussi simples. Bon, ce qui n'enlève pas le rôle de... Et maman, et qui reste. Voilà. Donc, ça, c'était pour les derniers livres qui ont paru. Hein. Et sinon, je voulais lire. Comme on parlait de Victor Hugo, pour rebondir un peu sur Victor Hugo tout à l'heure, donc, un petit texte de Soumia Marcoja, dont on a publié De si beaux ennemis et autres nouvelles. Un recueil de nouvelles. Et il y a un texte qui s'appelle Zone franche, où elle explique justement combien Victor Hugo a compté dans sa vie. Alors, Soumia était professeure de français à l'université d'Alger. Et elle et son mari et leurs enfants ont dû quitter l'Algérie en 1995 sous la menace des islamistes. Et ils se sont donc réfugiés en France. Et ils ont fini par prendre la nationalité française. Voilà, donc je vais lire un petit bout de ça. Zone franche, ça s'appelle. Alger menaçante, Alger dangereuse. Des hommes et des femmes tombent. L'histoire bascule. Des Français sont assassinés dans l'exercice de leurs fonctions et les portes des ambassades se ferment. Elle n'aime pas se souvenir de cette impression qu'elle avait eue de manquer d'air, elle asthmatique, de se retrouver piégée, tout tissu bouclé, abandonné du monde entier. Enfin, elle obtient son visa. Une association de femmes de Marseille lui fait parvenir une invitation, soutenue par le maire de l'époque. Première à obtenir le laissez-passer, elle part seule, sans lui, sans les enfants. Procédée par étapes, pas le choix. Maillon après maillon, une chaîne d'empathie se tisse et les portes s'ouvrent. Les enfants sont arrivés le mois d'avril, cadeau de Pâques. Les cloches carillonnent. Merci, merci, merci. Donc c'est des extraits comme ça de ce... Un jour, elle se retrouve seule dans l'appartement. Elle reste couchée toute la journée et pleure de façon continue. Elle ne pleure pas sur elle-même, mais sur l'Algérie et tous ceux qui sont morts. Tahar, Yasmine, Katia, Kader, Raymond, écrivain, poète, journaliste, enseignant, médecin, passant, inconnu. Liste infinie, vide jamais comblé. Les années passent, quelque chose en elle se calme sans être consolée. Une part d'elle n'a pas posé ses valises, ne les posera jamais. C'est ainsi. Des regards l'accueillent, certains visages lui deviennent chers. Elle apprivoise la ville, n'oublie pas qu'elle est le lieu de naissance de Victor Hugo. Tenant Les Misérables pour la quintessence de toute production romanesque, son père le lui avait offert à sa 13e année. Elle l'a encore, en 2 tomes, édition Garnier Frères, 1963, illustré, couverture en tissu bleu, intacte. Seul le titre a perdu quelques lettres. Par ce biais-là, elle se plaît à croire que l'esprit de son père l'accompagne dans cette ville, sise à l'est de la France. Lui, né là-bas à Constantine, ville sise à l'est de l'Algérie. La langue française est sa zone franche. Elle y circule librement. Pas de frontières ni de papiers à exhiber. Elle ne comprend pas qu'on puisse dire « notre langue ». Ce sentiment de possession et la fierté qui l'accompagne, la fierté des origines, de l'identité, lui sont inconnus. On lui a dit carré que c'est le propre des déracinés. Ah bon, grand bien face aux enracinés. Poussière est le final commun. Au bout de quelques années, elle et lui décident d'adopter la nationalité française. Des amis français s'en étonnent. Quand on vient d'un pays qui a été colonisé par la France pendant 132 ans, quand on lui a fait la guerre pour cause d'indépendance, presque 8 années de suite, on reste algérien, on ne devient pas français. Ils ne le disent pas aussi brutalement, ils sont polis. Elle et lui affirment qu'ils n'ont aucun problème à être aussi français. Leur France, c'est la France des Lumières, de la Commune, de la Résistance. Ils sont convoqués par la préfecture, service des naturalisations. Elle téléphone pour savoir si des amis peuvent, en ce jour solennel, les accompagner. La voix qui réagit à l'autre bout du fil ne l'y encourage pas. Elle aurait voulu au moins que la doyenne en âge de ses amis français fût présente à leur côté. Non, l'heure n'est pas à celle des symboles. La préfecture est en travaux. Elle est vêtue d'une jolie robe. Elle a mis des escarpins qui lui tordent les chevilles. Une bouteille de champagne les attend au frais. À leur retour, elle et lui fêteront en tête à tête l'événement. Ils arrivent. Ils ne sont pas seuls. Une dizaine environ. Un préposé à l'accueil les dirige vers une salle. Après quelques minutes, un jeune fonctionnaire ouvre la porte, se place en face d'eux, sourit et commence son allocution par ces mots « Bienvenue en France, votre pays ». Voilà. Je trouve que c'est assez beau et émouvant dans le contexte actuel, voilà, pour des gens qui sont réfugiés et aussi qui cherchent cette protection qui est la nationalité du pays où on se réfugie. La façon dont on dit voilà, « votre pays », Bienvenue en France, votre pays. Je trouve que c'est assez émouvant. Et ce qui est intéressant, c'est aussi ce qu'elle dit sur la langue française et la France, qui est déjà, même quand elle était algérienne et qu'elle vivait en Algérie, qui était déjà son espèce de famille, quoi. Voilà. Voilà. Donc, c'est dans un recueil de nouvelles qui s'appelle « De si beaux ennemis » de Soumia Amar Khodja. Voilà, voilà. Bon, pour un peu les différents livres qui paraissent, on peut peut-être...
On continue.
On continue, à moins qu'on écoute un peu de musique entre deux.
Je ne sais pas, comme tu veux.
Bon, et on parlera après des prochaines soupes olives qui arrivent.
D'accord. On écoute un peu de musique alors ?
Oui, oui. Qu'est-ce que tu
proposes ? Moi, je te propose d'écouter rythmique.fr.
Oui.
C'est Azuli Duo, c'est... ils font des percussions corporelles.
Oui.
Et ils sont très drôles et talentueux, c'est Églantine Rivière et Bart Russo.
D'accord.
On les écoute.
let me hear your rhythm on your soul. Give up the control. See as you and I, you fall.
Les livres ont la parole sur Fréquence Mistral. Alors je trouve ça intéressant, c'est justement ce travail sur le corps. Et c'est vrai qu'on parlait d'instruments tout à l'heure comme le piano qui ne sont pas toujours faciles à acquérir. Et là, l'instrument, c'est notre propre corps. Donc on vit avec, on l'a, donc il n'y a pas besoin de l'acquérir. Mais on ne sait pas forcément s'en servir. Je pense qu'il y a aussi un long travail. Mais c'est vrai qu'en plus, moi j'ai découvert en évoluant, en vieillissant, que ça peut. Il y a des moments où on a les privilèges, quoi. En vieillissant, j'ai pris un peu de ventre et donc maintenant j'ai une caisse de résonance. Justement, des fois, je l'utilise avec mes petits enfants. Voilà. Et parce que avant, j'avais pas ça, quoi. Quand j'étais jeune et svelte, j'avais pas ça. Donc on acquiert de la bouteille, je veux dire, c'est le cas de le dire. Et je trouve que c'est intéressant de se servir de son corps, de l'écouter, faire des bruits avec sa bouche. On l'a toujours fait. Il y a des chanteurs qui font des choses très bien, comme Steve Waring avec les grenouilles. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est absolument. Et c'est intéressant. Et on peut faire. On imite souvent, surtout quand on a des petits enfants, on s'amuse à faire des cris de bête et tout ça. Je trouve que. Ah, c'est vrai que c'est un instrument assez génial, le corps, qu'on n'exploite pas assez souvent. Hein. Voilà. C'est très sympa ce travail-là. Alors, je voulais parler donc des prochaines soupes olives. Alors, maintenant, ça va être Noël, donc il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas avant la fin de 2015. Par contre, dès janvier, on va en avoir plusieurs. Donc, je donne déjà celle du premier mois de janvier. Donc, ça sera le 22 janvier à Ops, donc dans le Haut-Var, au café associatif Le Petit Grain. Je ne sais pas si Certains connaissent le Petit Grain, donc c'est un café associatif très sympa où il y a beaucoup de choses qui se passent, d'activités, et puis on peut boire des coups aussi. Hein. Voilà, donc café associatif le Petit Grain, c'est donc le vendredi 22 janvier à partir de 18h30 comme d'habitude. Ça c'est le premier, c'est organisé donc avec l'association Le Plancher des Chèvres et la librairie Caractère Libre, qui est notre bonne librairie du Haut-Var à Ops. Une autre qui vient presque juste derrière, une semaine après, c'est le 29 janvier à la médiathèque de Sisteron. Donc le 29 janvier à la médiathèque de Sisteron, avec à 18h30 aussi, avec toute l'équipe de la médiathèque. Et puis là, on aura l'occasion de fêter la sortie d'un tout nouveau livre, qui est un livre jeunesse et qui s'appelle Les chants canaques du papayer. Voilà, donc c'est un livre dont l'auteur a fait à la fois les textes et les dessins. C'est Marie-Pierre Aiello qui a fait qui reprend la légende de la création de la canaquie, hein, puisque la légende dit que la lune a perdu une dent, et c'est à partir de cette dent qui est tombée sur terre que sont créés les animaux et les hommes de ce territoire. Voilà, donc c'est un très beau livre-disque avec des chansons et aussi de belles illustrations qu'elle a fait. Il y aura justement une exposition de ces illustrations, parce qu'elle utilise beaucoup, alors sur les livres ça disparaît en partie, mais elle utilise beaucoup la matière, la robe de la petite héroïne, et avec du tissu par exemple, et puis il y a des plantes, il y a du sable, dans son travail graphiste, elle utilise beaucoup de matière, et on exposera les planches de son travail à la médiathèque. Voilà, donc c'est le prochain livre à sortir dans une toute nouvelle collection qui s'appelle Globe, hein, de livres qui permettent d'aller à la rencontre d'autres régions du monde, d'autres peuples, d'autres cultures, et de comprendre un petit peu justement des légendes, des histoires. Voilà, donc les chants canaques du papayer qui sortira à peu près le 10 janvier et qu'on présentera à cette occasion-là.
Alors les chants, c'est les chants de chansons ?
Oui, c'est le chant, voilà, de chansons.
Les chants canaques, ça s'écrit comment ?
K-A-N-A-K-A.
D'accord, du papayer, Pépa.
Du papayer, P-A-P-A-Y-E-R. Mais bon, on retrouve tout ça sur le site, hein, puisqu'il est déjà en présentation sur le site. Malheureusement, on n'a pas pu l'avoir pour Noël. Il y a déjà des gens qui nous ont demandé pour l'offrir à Noël, mais on ne peut pas. Donc, ça sortira en janvier. Voilà, voilà, un petit peu les nouvelles. Sinon, dernière chose, avant Noël, on peut nous retrouver. Il y a un petit tas d'auteurs, si on peut dire ça, un petit nombre d'auteurs qui seront présents à la librairie Le Bleuet de Bannon le 22 décembre. C'est le jour du marché à Bannon. Et donc, Le Bleuet nous reçoit les éditions Parole, et il y aura 8 auteurs présents, hein, auteurs jeunesse, comme Marie Clouart, mais aussi des auteurs de différentes collections. Il y aura Jacques Meurant, il y aura que j'oublie pas, il y aura je me rappelle pas sur le moment toutes les différentes personnes. Il y aura Marie Lébeli qui a écrit Le Large dans les Poubelles, hein, qui est une institutrice juste à côté. Il y aura un certain nombre d'auteurs comme ça. Félix Chabot, qui a écrit Pour l'exemple sur la guerre de 14. Et Sophie Alfieri, plusieurs auteurs de la collection Main de Femme, justement. Voilà.
Donc, le 22 décembre, à Bannon, dans la librairie Le Bleuet. Donc, cette librairie n'a pas fermé ses portes, finalement.
Ah non, pas du tout. Non, non, non. En fait, elle a eu les difficultés qu'on connaît. Enfin, elle a eu... Il y a eu un gros problème de surévaluation par le propriétaire précédent de ses capacités, hein, puisqu'il voulait faire un truc immense de vente à distance par Internet. Et en fait, c'est ça qui l'a amené à la faillite, quoi, en gros. Par contre, la librairie, qui a été une construction de plusieurs décennies, qui a été une vraie réussite, dans ce petit village de Bannon. Elle a survécu à ça, puisqu'elle a été reprise par une dame qui s'appelle Christine Ray et qui essaye de lui redonner vie. Il y a toute l'équipe qui est restée et donc ça fonctionne apparemment très bien. Si je m'aperçois de ce qu'elle essaye de faire, quoi. Elle essaye de donner vie à ce lieu et le défendre. Et voilà. Je pense que c'est pas simple, mais voilà. Donc ça a été repris et la librairie existe toujours. Oui. Voilà. Donc le 22 décembre. Si vous avez encore des cadeaux, c'est au lieu d'acheter des cochonneries, venez découvrir un certain nombre de livres des éditions Parole pour cette occasion, pour vos derniers achats. Puis il y aura le marché, donc après vous pouvez acheter aussi du Bannon, du fromage de chèvre, du saucisson, du je sais pas quoi, des courges, voilà.
22, c'est mardi, hein, c'est ça.
C'est un mardi, oui, c'est le jour du marché à Bannon. Bannon a lieu le mardi. Là, c'est juste avant Noël, quoi. Permet effectivement de dire, ben tiens, alors il n'y aura pas que les éditions Parole, parce que la librairie, elle est grande. Mmh. Mais je veux dire, au moins, voilà, vous découvrirez un certain nombre de nos livres, la plupart, parce qu'on va présenter un peu tout. Et puis, il y aura quand même 8 auteurs avec lesquels on peut faire la causette. Mmh. Voilà.
Ça y est, on a fait le tour.
À peu près le tour. Je crois que j'ai rien oublié. J'ai une petite liste.
Alors, la petite liste de livres encore, non?
Non.
Alors, c'est quoi la petite liste?
Non,
on a fait le tour.
Voilà. Donc, ce que je disais, redécouvrir, ça vaut le coup de redécouvrir Victor Hugo et de l'offrir à ses enfants. Hein. Je veux dire, il y a vraiment des textes merveilleux, comme Les Misérables. Hein, qui est, mm-hmm. Voilà. Le Victor. Mais il y a plein de... Je crois que le livre aujourd'hui a plus forte raison dans une période... qu'on dit de crise, c'est une valeur de qualité. Je veux dire, offrir un livre à quelqu'un, c'est plus qu'un cadeau, quoi. C'est une marque de respect, d'amour, de considération, quoi. Offrir un cendrier à quelqu'un, c'est gentil, mais c'est pas la beauté d'âme d'offrir un livre, parce que c'est montrer qu'on a confiance en lui, en son intelligence, en sa capacité d'acquérir des choses. Voilà, je crois que offrir un livre aujourd'hui, c'est vraiment le signe, dans une période justement où il y a des difficultés. Et puis un livre, ça reste, c'est-à-dire que on peut aussi le faire passer. Le livre, il va être lu par plusieurs personnes. Je vois, on a décidé justement à la maison d'offrir des livres. On a décidé, comme on n'a pas beaucoup de ronds en cette période, on n'est pas les seuls. Dans la famille, on a décidé qu'on allait offrir un livre qu'on a beaucoup aimé à quelqu'un d'autre de la famille qui ne l'a pas lu. C'est une façon de vous dire, voilà, ce que j'aime, je te le transmets, quoi. Hein, je veux dire, moi, des livres que j'avais offerts, je vois pour ma fille, je vais lui offrir un livre que j'ai acheté pour moi sur l'Algérie, qui est le pays où j'ai passé une partie de mon enfance. C'est une façon aussi de lui faire comprendre d'où elle vient et qu'est-ce qu'il y a dans ma besace, dans mon cœur, dans mon histoire. Voilà. Et je crois que c'est important, quoi. Donc, offrir un livre... il se passe quelque chose. Il nous est arrivé une aventure particulière. Justement, je les rencontre demain. Les gens de la médiathèque départementale du Var m'ont demandé... Tu sais que pour notre 10e anniversaire, on avait construit une maison en livres. Mmh. Hein, on avait construit une maison. On avait utilisé environ 12 mètres cubes de livres usagés qu'on avait récupérés partout. Et du coup, il y a des gens qui se sont aperçus qu'on était capable de faire des choses comme ça. Et on est apparu comme des sculpteurs de livres. Bon, ce qui n'est pas tout à fait notre métier. Mais donc, on a été invité pour la fête du livre du Var qui avait lieu à Toulon à construire des objets en livres. Et donc, on a construit trois choses. On a construit un bateau, un pointu, qui faisait 4 mètres de long, hein, et on a utilisé une quantité de bouquins pour ça. On a construit après une maison, comme on l'avait fait, et on a construit des fleurs. Hein. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'on l'a fait avec à la fois les enfants des écoles, parce qu'on a eu un certain nombre d'écoliers qui sont venus, de collégiens, avec leurs profs, et puis avec les gosses du quartier. Et donc c'était sur la place d'Armes, c'est un quartier très populaire de Toulon, et il y avait tout plein de petits gamins de toutes les couleurs, des bleus, des verts, des jaunes, et qui, en même temps, ils sont venus nous aider à construire, et en même temps, ce qui était fabuleux, c'est que souvent, il tombait sur un livre, il s'asseyait, puis il l'ouvrait et il regardait dedans. Et pour lire, ou même quand il ne savait pas lire, pour regarder les images, etc. Et puis, il y a aussi plein d'adultes qui sont venus nous aider à construire tout ça. Et beaucoup disaient, ouais, ah, ce livre-là m'intéresse, que je peux le prendre. Alors, on disait, non, on construit. Et à la fin, donc ça s'est passé sur 3 jours. Et à la fin, le dimanche, on avait dit, ben, venez le dimanche après-midi, on va déconstruire. Et chacun peut emporter les livres qui l'intéressent. Et donc, on a utilisé 20 mètres cubes de livres. Et le dimanche après-midi, on a tout déconstruit. Et les gens sont partis avec les livres. Tout est parti. Et on se dit qu'il s'est passé quelque chose. On a ensemencé, je dirais, une partie de la ville. Les livres ont sûrement été dans différentes maisons, y compris des maisons où il n'y avait peut-être pas de livres pour des raisons culturelles, pour des raisons financières. Et on se dit que si des livres entrent dans des maisons comme ça et vont être lus par des jeunes, des enfants, etc., il sera passé quelque chose, quoi. C'était assez émouvant de voir les gens partaient avec des livres. Parfois, des gens très émus, quoi. Hein, des dictionnaires, par exemple. Il y a des gens qui disaient, mais toujours rêvé d'avoir un dictionnaire, une encyclopédie. Tu vois, il y avait un monsieur qui est parti avec une encyclopédie. Il est revenu plusieurs fois parce qu'il fallait porter tout ça. C'était lourd, quoi. Et donc, voilà, c'était beau, quoi, de voir ça. Et je trouve que ce partage des livres, y compris d'occasion, ces livres qui ont plusieurs vies, c'est primordial, quoi. Je crois qu'on a bien parlé du livre.
Oui, c'est bien. C'est bien. On va peut-être se quitter.
Oui,
et
on
puis,
va se quitter.
Ben, vous souhaitez de bonnes fêtes, hein, et de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, bien sûr, donc, voilà. Conseiller aux personnes d'aller sur le site, aussi de Fréquence Mistral, pour retrouver cette émission et les références des livres dont on a parlé aujourd'hui, ce soir. Et puis, d'aller sur le site des éditions Parole.
Oui.
Entre autres.
Et mais puis, on peut voilà. Aussi acheter des livres qui ne sont pas des éditions Parole.
Voilà, voilà. Vous le répétez souvent et c'est bien. Vous faites aussi la promotion de livres d'autres
oui,
éditeurs.
Oui, mais c'est important,
et...
je veux dire. Important, on a la chance d'avoir dans notre pays une certaine liberté d'expression. J'espère que ça durera longtemps. Et on a une multiplicité d'éditeurs. Il y a beaucoup de petits, hein. Je veux dire, il y a plusieurs milliers de petits éditeurs. C'est ça la bibliodiversité. C'est-à-dire d'avoir des gens qui, parce qu'ils y croient dans le livre, produisent des livres étonnants. Puis il y a plein de gens qui ont des choses à dire, à partager. Et c'est ça le rôle du livre, quoi. Voilà. En ce qui concerne les rendez-vous, donc je rappelle,
oui.
on peut nous retrouver le 22 pour les derniers achats de livres à la librairie Le Bleuet à Bannon. C'est facile à trouver, c'est en plein milieu du village qui n'est pas un village immense. Et puis, donc, 2 soupes aux livres, une le 22 janvier à Ops. Au café associatique Le Petit Grain, et in le 29 janvier à Sisteron, à la médiathèque de Sisteron.
La soupe aux livres, on le rappelle, donc c'est un moment convivial de partage, de lecture, de chacun peut y mettre son ingrédient dans cette soupe culturelle.
Alors, c'est difficile
culturelle.
Parfois à expliquer, c'est le contraire du spectacle, c'est-à-dire c'est toute personne qui est présente peut lire un texte qu'elle a écrit de Victor Hugo ou chanter une chanson de Bob Dylan par exemple ou de soi-même, lire, dire, compter, raconter, expliquer même des choses sur on a parfois des intervenants, des gens qui viennent qui sont du village et qui des personnes relativement âgées qui racontent comment était le village ou comment ils vivaient certaines choses 40 ou 50 ans auparavant, ce qui est intéressant pour les jeunes qui sont là ou les gens qui sont arrivés d'ailleurs, qui n'ont pas toujours la compréhension de l'histoire de l'endroit où ils tombent.
Donc de vrais moments, de vrais veillées, comme dans le temps, comme jadis.
Oui.
Moments de partage, d'échange, autour d'un bol de soupe et d'un verre
oui,
de vin.
Oui, Voilà, c'est très différent à chaque fois. Hein. Les dernières, il y en avait. Ben c'était les dernières, c'était à Bruxelles chez quelqu'un, chez un particulier. Après, on était dans une médiathèque à Quinger, dans le Doubs. Après, on était chez un libraire qui s'appelle Les Sandales d'Empédocle à Besançon. Et voilà. Et donc, les prochaines, c'est voilà, un café, une médiathèque. Ça peut être aussi dans la rue, ça peut être partout où on nous invite.
Voilà. Voilà. Jean Darrou, merci et d'avance
passez
de bonnes fêtes.
Passez tous de joyeuses fêtes.
Et on se retrouve certainement en janvier.
Oui, en janvier.
Allez, au revoir.
À bientôt, au revoir.
Je ne t'entends plus. Où es-tu?